My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bienvenue, chers auditrices et auditeurs des Enfants du Nouveau Monde. On se retrouve en cette fin d'année. L'hiver arrive, le froid aussi. Et du coup, j'avais envie d'aborder le sujet des migrants et du besoin d'hébergement qu'il y a de plus en plus, notamment, bah, évidemment, l'hiver. Et pour ça, j'ai invité des personnes qui sont très engagées sur la question de l'aide aux migrants ici en Cévennes. Voilà, je vous présente Fred, Philippe et Maureen. Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Merci d'être avec moi ici sur ce plateau de radio. Grâce à vous, on va pouvoir avoir une idée un petit peu plus précise de quelle est la situation ici, donc dans le Gard et plus largement en Cévennes. Fred, il y a un guide de l'hébergement solidaire qui vient de sortir. Toi, tu es très engagé avec Cévennes sans frontières. Donc, c'est basé à Saint-Jean-du-Gard.
Ouais, c'est ça.
Et tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce que vous faites et pourquoi vous venez de sortir ce guide qui est bien fichu et qui explique bien la réalité.
Eh bien, on a sorti ce guide avec, alors c'est pas avec uniquement le collectif Cévennes sans frontières dont je fais partie, mais également avec une quinzaine de collectifs qui sont répartis dans les Cévennes, qui vont à peu près du Vigan à Saint-Jean-du-Gard, à l'Aix, en passant par Nîmes et Montpellier également. Donc ça fait à peu près 2-3 ans pour l'ensemble que ces collectifs se sont constitués autour de personnes qui étaient donc dans le besoin d'hébergement dans le bassin alésien, ou voire de plus loin. Et la sortie de ce guide, du coup, c'était pour un petit peu mettre en commun ce besoin d'hébergement, le travail qui est fait déjà depuis des années, qui est fait par tous ces collectifs, et aussi se donner un outil commun, en fait, pour pouvoir présenter ce qu'on fait aux personnes qui voudraient s'investir, en fait, dans cette aventure-là, quoi, en fait.
Ça met un peu de clarté sur une réalité qui est des fois bien, bien obscure et difficile de s'y retrouver avec beaucoup d'acronymes, des lois qui changent, etc. On sait pas trop bien comment on pourrait aider, quelles sont les situations des uns et des autres. Là, du coup, ça met de la clarté. C'est vraiment ça l'objectif de ce guide.
Ouais, c'est mettre de la clarté, puis c'est également aussi affirmer quelques valeurs, hein, comme l'accueil inconditionnel de tous. Parce que à la base, en fait, l'accueil des demandeurs d'asile, etc., doit être pris en charge par les institutions. Depuis de nombreuses années, on se rend compte évidemment que c'est pas le cas. C'est-à-dire que de nombreuses personnes qui devraient être hébergées ou prises en charge ne le sont pas. Hein. On peut le voir dans les rues des principales grandes villes, dans les campements qui sont à même la rue, dans la non-prise en charge des mineurs, par exemple, qui devraient être hébergés. Donc du coup, c'est parti.
Comment ça se fait, ça, Fred ? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place dans les centres d'hébergement, ou comment ça se fait ?
La question, c'est de savoir si on veut mettre plus de place pour héberger ou pas, quoi, c'est sûr. Non, il y a évidemment pas assez de place. Il y a aussi peut-être une mauvaise volonté qui est assez flagrante de ne pas prendre en considération ça.
Parce que les hébergements sont sur des durées limitées. Et en fait, il y a un moment donné, on dit aux personnes, bon, bah, même si votre demande n'a pas abouti, c'est non, fini. Comment ça se passe, Philippe ?
Tous les mineurs non accompagnés doivent être pris en charge par l'ASE.
L'aide sociale à l'enfance.
À l'enfance, oui. Tout à fait, qui dépend du département. Et quelquefois, c'est pas fait.
Parce que l'aide sociale à l'enfance ne souhaite pas s'occuper de certains mineurs.
C'est une obligation.
Oui, d'accord. Okay.
C'est une obligation également de prendre en charge les demandeurs d'asile dans les centres qui s'appellent les CADA, ce qui n'est pas non plus...
Centre d'accueil des demandeurs d'asile.
Mm-hmm. Voilà, ce qui n'est pas non plus une réalité. Hein. Par exemple, dans des grandes villes, il y a des mois d'attente où les personnes, avant d'être prises en charge, sont à la rue, quoi. Donc ça, c'est des possibilités. Ensuite, comme tu disais tout à l'heure, en fait, le dédale administratif et toutes les lois font que c'est un véritable parcours du combattant pour pouvoir avoir une situation un peu pérenne. Donc il se retrouve que des personnes, à un moment, sont pris en charge, à un moment, ne sont pas pris en charge, à un moment, sont pris en charge, etc., etc., quoi. Ça peut être le cas aussi des jeunes demandeurs dublinés. Donc dublinés.
Ah ouais, ça faut expliquer ce que c'est alors les dublinés.
Le règlement Dublin en fait est un règlement européen qui stipule que la demande d'asile, quand on arrive dans les premiers pays d'entrée et que les empreintes des personnes sont prises en fait, souvent par la force d'ailleurs, ce serait ce pays-là, le premier pays d'entrée, qui doit être responsable de la demande d'asile. Mmh. Bon, il se trouve que ces pays d'entrée sont souvent l'Italie par exemple. Et que les demandeurs d'asile sont passés par là, ont souvent vécu des choses assez dures aussi dans ces pays.
Et ils n'ont absolument pas être pris en charge et
ne peuvent pas y rester. Ouais. Tout simplement parce que ça peut être aussi un choix d'aller dans d'autres pays pour X raisons. Mm-hmm. Donc du coup, ce règlement-là, les personnes font leur demande d'asile, enfin commencent à entamer les démarches et sont dublinés, ce qu'on appelle.
Donc, par exemple, ils sont arrivés en Italie, ils viennent jusqu'en France, ils font une demande d'asile en France et là, ils sont dublinés, c'est-à-dire qu'on leur dit, non,
il faut retourner là-bas.
Pour retourner en Italie ou.
Donc, soit ils y retournent. Ça peut être compliqué pour eux, soit dans ce cas-là, ils sont placés, ils sont mis en fuite, c'est-à-dire que pendant 18 mois, ils ne peuvent pas re-effectuer une demande. Au bout de 18 mois, c'est à nouveau la France, par exemple, qui sera responsable de la demande. Donc pendant 18 mois, c'est des personnes qui n'ont pas de statut, pas d'hébergement, pas de possibilité de travailler.
Attends, juste pour être sûr d'avoir bien compris, ils sont dublinés, donc là, on leur dit, non, il faut retourner en Italie, et là, s'ils attendent 6 mois ou 18 mois, ils vont pouvoir refaire une demande d'asile en France ?
Exactement.
D'accord.
Donc pendant cette période-là, c'est une période à trous, quoi, en fait.
Okay.
Personnes n'ont pas de moyens institutionnels d'être hébergées, donc c'est à ce moment-là que les collectifs de soutien peuvent...
J'imagine que vous devez avoir beaucoup de personnes dans ce cas-là.
Ah oui, bien sûr. Mm-hmm. Toutes ces personnes-là, en fait, du coup, ça crée un gros besoin.
Une énorme demande,
quoi.
Un gros besoin d'hébergement et de soutien. Ouais. Et alors, du coup, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui proposent leur aide, aussi bien pour héberger chez elles que peut-être... D'autres formes d'aide.
Enfin, oui, le fait qu'il y en ait déjà, c'est sûr qu'on a plus de demandes que de propositions et qu'on a encore des familles. Récemment, sur Alès, il y a une famille qui a été expulsée du CADA il y a 2 semaines. Alors, je vais vous expliquer un peu. C'est 2 parents et leurs 2 enfants qui sont majeurs. Et en fait, les gendarmes sont venus à... Il y avait 5 camionnettes, plus les huissiers, beaucoup de monde.
Pour les expulser, du CADA ?
Oui, du CADA.
Sachant que le CADA, c'est le centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Parce qu'ils étaient en indu au CADA. Ils auraient dû sortir depuis longtemps.
D'accord.
Sauf que sortir pour aller où ?
Oui, vu qu'ils n'avaient nulle part où aller, ils étaient restés.
D'accord. Et donc, ils sont sortis. La préfecture leur a donné 3 nuits d'hôtel.
D'accord.
Et ça s'est passé un jeudi, et le lundi matin...
Ils étaient à la rue.
Oui, dans
la voiture. Et alors, comment vous avez fait, du coup ?
Pour l'instant, on ne peut pas...
Ah, pour l'instant, vous n'avez pas de solution ? Donc, c'est une famille qui dort dans sa voiture, là, actuellement ?
Oui.
D'accord. Okay.
Alors qu'on avait réussi à faire scolariser un des enfants qui est majeur.
C'est une famille qui vient d'où ?
Il venait d'Arménie.
D'Arménie.
Et donc, on avait réussi à faire scolariser un de leurs enfants dans un lycée d'Alès. Et en plus, ça marchait bien. Lui était content. Et le fait maintenant que sa famille soit dehors, il ne va pas retourner à l'école. Parce qu'on a la possibilité, avec les bourses, qu'il soit,
logé ?
Oui, interne.
Ah oui, d'accord. Et il veut pas, par solidarité, il ne veut pas laisser sa famille.
Voilà, et il dit non, il est hors de question que mes parents dorment dans leur voiture et moi dans un dortoir au chaud. Mm-hmm. Et ça, on peut l'entendre, on peut le comprendre.
Bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, merci Philippe pour ce témoignage. Ouais. Je découvre que dans les CADA et dans ces centres d'accueil, du coup, ils utilisent régulièrement la force pour expulser des familles, c'est ça, qui n'ont pas d'autre solution.
Non, c'est pas la force. Ils viennent, vous devez sortir. En fait, ils viennent en nombre parce qu'ils ont peur que les gens qui ont demandé l'asile, qui viennent dans les CADA, ils ont traversé tellement
d'épreuves
qui se sont fait arrêter sur le chemin par la police. Il y en a qui ont été torturés, maltraités. Donc, ils ont peur que ça se passe mal, quoi. Mmh, Même si on ne vient pas sonner chez cette famille, que cette famille dise « Ouais, ils viennent nous expulser », et voilà. Mmh. Et eux nous ont dit que c'était par prévention. Mm-hmm. Mais ils étaient venus bien outillés, mm-hmm. on va dire.
D'accord.
Puis un autre problème aussi, c'est que bon, là, on parle de la década pour ce cas-là, mais c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de dispositifs.
Mais oui, des CAO, voilà. Des CHUM, des PRADA, des DPAR, des CAES.
Donc en fait, tous ces trucs, ça sectorise en fait les personnes. Et généralement, en fait, on peut aller jusqu'au PRADA, par exemple, qui sont les hôtels Formule 1, en fait, qui sont placés en banlieue de grandes villes. Hein. C'est-à-dire que, donc, du coup, les gens sont tous placés dans des hôtels Formule 1 avec des feuilles épaisses comme ça, quoi. On rentre chaque chambre. Il n'y a pas de suivi administratif, les gens sont
isolés.
Ils
n'ont pas de quoi se faire à manger là-dedans.
Non, il y a la possibilité, il y a un accueil. Donc du coup, on se demande si l'hébergement ne devient pas de plus en plus quelque chose qui est complètement...
externalisé, privatisé.
Privatisé d'une part, et puis surtout policier, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi un lieu où les gérants, par exemple des Prada, Adoma, doivent gérer les assignations à résidence. Les assignations à résidence, c'est quand une personne doit être expulsée, elle doit pointer tous les jours au commissariat avant d'être expulsée pour bien montrer qu'elle est là et qu'elle prendra son vol sans rien dire.
D'accord.
Donc du coup, en fait, il y a un glissement en fait de l'accueil qui se fait plutôt vers ce qu'on pourrait voir de l'enfermement, en fait. Mmh. Parce que c'est une mesure policière. Mmh. C'est comme on avait vu la police qui pouvait rentrer dans les centres d'urgence sur Paris, où ça avait fait quand même un petit peu du bruit, il y a quelques temps. C'est ça, en fait. Donc les gens sont pas... Bon, c'est des personnes qui viennent demander l'asile, qui ont eu un parcours compliqué, etc. Mmh. Ils sont pas du tout en sécurité dans ce genre de lieu.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que l'accueil, déjà au niveau juridique, est déjà insuffisant pour certains lieux. Et voilà, c'est une rampe de lancement pour les expulsions dans bien des cas. Mmh. Donc c'est là aussi que nous, avec le guide de l'hébergement solidaire, on pose aussi quelque chose qui est de ne pas faire de distinction justement dans les statuts. Nous, on ne va pas demander les papiers à quelqu'un qu'on héberge. On ne va pas demander sa situation, s'il est en règle, s'il n'est pas en règle ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là la question. Nous, on accueille pour d'autres raisons. Parce qu'on estime que chaque personne a le droit d'avoir un toit ici,
et
a le droit de pouvoir se déplacer et vivre convenablement.
Mmh.
Donc c'est aussi une réponse face à l'accueil conditionnel, voilà. Institutionnel, voilà ce que je voulais dire.
Là, il y a un tri qui est opéré entre
oui, exactement
ceux
un tri,
qui ont le droit,
ça.
Ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui ont le droit tant de temps, en fonction de critères plus ou moins avouables.
Ouais, c'est clair, quoi.
Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent. Expulsez-moi, j'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Il paraît que chez toi, expulsez-moi. Ouverts sont les bras, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Je suis un oublié, expulsez-moi. Je ne fais que passer, expulsez-moi. Sur mon tapis volant, expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans, expulsez-moi. Quand les bouches du métro, expulsez-moi. Vomissent des troupeaux, expulsez-moi. Il était une fois, expulsez-moi. Chez toi, c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Puisque c'est comme ça, je t'invite chez toi. Quand il y aura plus que moi, je m'expulserai.
Expulsez-moi, expulsez-moi. Expulsez-moi, 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 expulsez-moi.
Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas.
ma porte.
Écoutez les enfants du Nouveau Monde et c'était les Têtes Raides qui nous ont accompagnés avec Expulsez-moi, car on parle des migrants aujourd'hui et de l'accueil disparate qu'on leur réserve ici en France. En Cévennes comme ailleurs, des citoyens s'organisent pour offrir un toit et un peu d'humanité à ces exilés au parcours plein d'embûches. C'est intéressant, on a parmi nous donc Maureen, une citoyenne qui accueille justement chez elle un migrant d'origine irakienne, hein, c'est ça Maureen ?
C'est ça, oui.
Ouais. Et alors, toi, ça fait combien de temps du coup que tu accueilles cette personne chez toi ?
Alors, il est arrivé en février 2018,
ouais.
Donc il est toujours à la maison. Et il est arrivé après un passage au nord de la France, entre la Belgique et Dunkerque. Il ouais. voulait essayer de passer en Angleterre. Mm-hmm. Et pour beaucoup, cette période-là est une période assez difficile où ils essayent chaque jour de passer dans des bateaux, où ils se font refouler, où ils vivent des choses un peu... voilà.
À la limite de la maltraitance, ouais.
De la maltraitance, de la fatigue, vie. Beaucoup de rue, du coup... je pense un état psychologique aussi qui commence à descendre petit à petit. Et nous, il est arrivé par le biais, du coup, de la rétive. Oui. On était sur la liste, sur les listes mail de la rétive, et on a reçu un mail comme quoi une dame demandait... si quelqu'un avait une place pour héberger ce jeune Irakien. Donc, on a répondu. Et depuis, on vit un peu au jour le jour, dans le sens où ils peuvent pas avoir de projet, ils peuvent pas avoir d'avenir, parce qu'ils ont pas de situation. Le jeune qu'on accueille, il est dublinais.
Donc, il est en stand-by, il doit attendre encore 6 mois ou un an.
Leur vie, c'est que de l'attente. C'est de l'attente du premier au dernier jour, sans être jamais sûr qu'ils aient leurs papiers derrière. Enfin, c'est leur espoir plus profond, bien sûr, mais il y a toujours aucune garantie où on leur demande d'apprendre le français, de s'inscrire dans une scolarité, de s'inscrire pour devoir avoir des amis, pour avoir se créer un cercle autour d'eux.
Oui.
Sauf que nous, quand il était arrivé à la maison, on lui demandait, on essayait de le pousser à faire ça. Mais quand il a passé, il est parti en 2015 d'Irak.
Oui.
Et le temps passe, il n'a toujours rien. Oui. Et quand il est passé par la Norvège avant, on lui a demandé d'apprendre le norvégien. Il arrive en France, on lui demande d'apprendre le français. S'il va dans notre pays, on lui demandera. C'est des situations qui ne sont pas vivables pour tout un chacun, en fait.
Bien sûr.
Ce jeune, il a 24 ans. On a 3 ou 4 ans de différence. Mm-hmm. C'est comme si c'était mon frère, en fait. Mm-hmm. Et m'imaginer cette situation-là, ou même me l'imaginer pour moi, en fait, c'est inimaginable. Enfin, on fait subir à ces jeunes des choses qui sont inhumaines, et on les met dans une posture où ils sont pas du tout acteurs de leur vie,
c'est ça.
En fait.
Ils sont dépossédés de leur vie, ils peuvent plus décider par eux-mêmes et ils sont là à la merci de...
Mais
décisions.
On leur demande quand même d'agir et d'apprendre et de t'intégrer, ouais. Et de comprendre et de... Enfin,
c'est une double injonction là.
C'est très complexe. Ouais. Tout là, quand on parle par exemple de tous les sigles CADA, tout ça, il faut comprendre que aussi quand ils arrivent, on leur parle en français, on leur dit tous ces sigles-là. Et il faut qu'ils sachent comprendre qu'on va t'envoyer à cet avocat-là, après tu vas avoir une assistante sociale qui va s'occuper de tous tes dossiers, alors que tu comprends pas ce qu'on te demande de faire, qu'on te demande de prendre des empreintes, tu sais pas pourquoi. Enfin, il y en a beaucoup qui en viennent à essayer de se brûler les empreintes. Enfin, des choses qui sont complètement... Parce qu'on le porte, ils le portent en eux, quoi.
Et puis cette histoire de dublinage, donc, là, qui a... ça date de quand, cette histoire-là?
Le règlement Dublin, il est pas tout jeune, c'était dans 2000 à peu près, je crois.
Oui,
d'accord. Il y a eu la troisième convention au Dublin.
Du coup, ça doit se savoir, oui, parmi les migrants, qu'ils prennent un risque à arriver dans un pays dans lequel ils n'ont pas envie de faire leur demande d'asile.
En fait, le règlement Dublin n'est pas tout neuf. Par contre, ce qui est récent, c'est la prise en plainte forcée, en fait.
Ah,
depuis 2015, en fait, avec le fameux pic des réfugiés dont on a tant parlé, il s'est créé les hotspots. Donc, les hotspots, c'est des centres de tri. Donc, c'est-à-dire, c'est des camps pour réfugiés qui sont placés en Méditerranée. Donc il y en a 5 ou 6 dans les îles grecques, il y en a au sud de l'Italie à Lampedusa, il y a aussi ce qu'on appelle les CETI dans les enclaves espagnoles, donc qui sont situées sur le Maroc.
Oui.
Donc dans ces centres-là qui ont été créés en 2015 pour la Grèce et l'Italie, en fait les personnes arrivent. Au départ, on leur prenait pas leurs empreintes. Seulement, depuis, ça c'est une pratique qui s'est généralisée. Et d'ailleurs, par la force, il y a de nombreux rapports des ONG, des associatifs qui sont là, et des personnes qu'on suit qui nous racontent ça, en fait. C'est-à-dire que la prise d'empreintes n'était pas systématique jusqu'à quelques temps. Maintenant, elle l'est. Donc du coup, tout le monde
puisque
est évidemment
ça leur permet de se renvoyer le bébé et de dire
«
bah, tiens, on vous le renvoie à vous, vu qu'il est passé par chez vous avant ».
En fait, il y a un processus qui est en cours de toujours repousser au plus loin les personnes qui tentent de rentrer. C'est-à-dire que le processus de Dublin, quand les personnes arrivent à passer dans des pays du Nord, sont ramenées dans les premiers pays. Dans les premiers pays d'entrée, on cherche à les ramener dans les autres. C'est ce qui se passe de la Grèce à la Turquie. La Turquie fait pareil et les frontières ont tendance, les frontières se repoussent. Sont externalisés. En fait, c'est ce qu'on appelle. C'est pour ça que de nombreux pays comme l'Italie, la France passent des accords avec d'autres pays comme la Libye, le Soudan, etc. pour que les frontières soient gérées en amont de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un chantage à l'aide au développement, ça peut être des accords, donc ça peut être de la formation des gardes-côtes, ça peut être des moyens militaires qui sont déployés partout en Afrique et au Moyen-Orient pour que les frontières soient déplacées.
Okay, c'est très intéressant.
C'est également l'agence Frontex, qui est l'agence la plus dotée en Europe, 320 millions d'euros. Donc c'est une coopération européenne pour militaire, pour stopper les embarcations en mer.
D'accord, donc l'idée c'est vraiment qu'ils n'arrivent pas jusqu'à nos portes.
Exactement, c'est ça.
Ok.
Il n'y a pas plus clair.
Justement, sur ce sujet des frontières, là, vous avez publié un petit journal, hein, c'est 4 pages, Faisons le procès des frontières. Ça, c'était donc un ensemble de collectifs.
Là, c'est la coordination sud-est contre les frontières qui a fait ça.
Et vous avez fait ça à l'occasion d'un procès qui a eu lieu. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est par rapport aux gens de la frontière, là, pour le coup, franco-italienne. C'est ça.
Ben, donc le procès, c'était ce qu'on appelle le délit de solidarité, en fait.
Le délit de solidarité.
Qui est connu sous ce nom, mais en fait, il n'y a pas vraiment de délit de solidarité qui sont écrits dans les lois.
Oui, bien sûr.
C'est l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour de personnes en situation irrégulière. Donc, c'est le procès des 3+4, comme on appelle ça.
Pourquoi 3+4?
3+4, eh bien, en fait, tout a commencé, on peut dire, en juin. C'était lors de la manifestation du groupe identitaire, du groupe Génération Identitaire, qui avait fait toute une mobilisation un week-end à la frontière franco-italienne contre l'accueil des migrants, en fait, en réaction à ce déferlement de haine et de racisme. Une manifestation spontanée a vu le jour directement le lendemain.
D'accord.
La manifestation est partie de Clavière en Italie pour arriver jusqu'à Briançon.
D'accord.
Il y a eu à peu près 200 à 300 personnes qui ont répondu pour montrer que non, c'est les valeurs du fascisme n'étaient pas les bienvenues. Et également pour dénoncer la situation qui se passe là-haut en Italie et en France, quoi, à la frontière. À l'intérieur de ce groupe, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient censées être sans papier parce qu'elles étaient noires, donc évidemment... On a supposé qu'ils étaient sans papier. Et 3 personnes ont été arrêtées donc, parmi ces manifestants pour l'aide à l'entrée au séjour irrégulier. Et par la suite, Quatre autres ont été placés en garde à vue et répondent, enfin, sont sur le même chef d'inculpation, quoi. Le procès s'est tenu à Gap le 8 novembre dernier, où il y a eu une grosse mobilisation, plus d'un millier de personnes pour les soutenir, parce qu'elles risquaient, selon les lois françaises, 10 ans d'enfermement et 750 000 euros d'amende.
Mais pour quel motif, du coup ?
Pour avoir fait entrer des personnes en situation régulière sur le territoire français.
D'accord.
C'est le délit de solidarité, ce qu'on appelle.
Mmh, d'accord.
Donc pour le moment, ce qui a été requis contre eux, c'est 6 mois de prison avec sursis pour 5 d'entre eux et 12 mois de prison, donc 4 fermes pour 2 autres. Donc le délibéré, le rendu, pour savoir exactement ce qu'il en sera le 13 décembre.
D'accord. Mmh. Il y a quand même là une volonté vraiment d'intimider et de ralentir ce mouvement de solidarité, de le freiner.
C'est exactement ça. C'est ce qui s'était déjà passé à Vintimille, dans la Roya, les années précédentes. Hein. Il faut savoir que la frontière, les contrôles aux frontières sont rétablis au sein de l'espace Schengen qui est censé être ouvert depuis 2015. C'est-à-dire que les gens de la Roya, par exemple, vivent avec des contrôles permanents routiers.
Donc la Roya, c'est cette vallée hein, entre la France et l'Italie et qui est devenue un espace extrêmement tendu avec effectivement des contrôles policiers permanents.
Policiers militaires, oui.
Militaires, oui. Ouais. Donc, comme tu dis, la frontière a fermé au sein d'un espace qui a normalement été ouvert.
Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment aussi dans les Hautes-Alpes. Et c'est donc du coup cette militarisation et ces contrôles policiers poussent les personnes à prendre plus de risques en fait en montagne, c'est-à-dire qu'ils prennent des chemins toujours plus lointains, ils passent de nuit alors qu'ils pourraient passer à d'autres moments. Et il y a déjà eu, je crois, 20 morts depuis 2016 dans les Alpes du Sud. On en est à quelques-uns aussi l'hiver passé.
Mm-hmm,
donc
oui.
On peut appeler ça une politique criminelle, on peut appeler ça un peu... Mm-hmm, mm-hmm. Chacun se fera son idée. Hein.
Et qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ça veut dire qu'il y a une quantité de personnes qui sont retenues de l'autre côté, côté italien, et qui attendent pour passer en France ?
Il n'y a pas de campement de l'autre côté des Hautes-Alpes.
D'accord.
En ce moment, parce que c'est la montagne, en fait, c'est à 1800 mètres d'altitude.
Ouais, okay.
Il y avait un logement autogéré qui avait été ouvert dans l'église de Clavière, donc un lieu où les personnes pouvaient se reposer justement avant de faire la route. Ça s'appelait Chez Jésus, donc c'était le sous-sol d'une église de Clavière qui était squattée, en fait, qui permettait aux personnes de se reposer, d'être au chaud avant de partir, qui a été expulsée il y a maintenant un mois ou deux, je crois. Expulsé par les forces policières d'Italie. Hein. Donc maintenant, les personnes qui font la route, si elles sont bloquées et refoulées en pleine nuit dans la montagne, plutôt que retourner à Clavière et faire quelques kilomètres pour se reposer, elles doivent repartir hein, ou alors rester dormir dans le froid.
Mmh.
Voilà où conduit ce genre de politique. Quoi.
Mmh.
We'll be right back.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde, où l'on parle des migrants, un sujet qui crispe notre vieux monde arc-bouté sur ses frontières. Alors même que les étrangers représentent à peine 7% de la population en France, et que cette part reste relativement stable, les oligarchies politico-financières, soutenues par les médias, nous agitent la peur de l'étranger sous le nez, pendant qu'elles continuent de nous dominer, bien sûr. Diviser pour mieux régner reste malheureusement efficace, en ces temps d'ignorance, de peur et de haine, qui font le terreau des extrêmes et des fascistes. Face à cela, certains osent encore brandir des idéaux humanistes de fraternité, de liberté, d'égalité et de solidarité. Philippe, toi, tu es engagé au sein de deux associations, la CIMAD et puis RESF, oui. Réseau Éducation Sans Frontières. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, du coup? Donc, c'est sur Alès, hein, y a des permanences, etc. Vous avez fait de l'accompagnement juridique, oui. administratif.
Sur Alès, on a la particularité d'avoir un... La CIMAD et RESF existaient bien avant, mais maintenant, il y a le collectif Solidarité Migrants qui regroupe 15 associations et des particuliers aussi. Là, le réseau Éducation Sans Frontières prend les familles et la CIMAD prend les gens célibataires. Mais bon, si à la CIMAD arrive une famille, on les prend.
Hein.
Il n'y a pas de problème.
Vous répartissez un petit peu la tâche,
oui, voilà.
Histoire d'avoir des domaines d'expertise, j'imagine.
Non, c'est que surtout de ne pas avoir trop de travail, parce qu'on est à RESF, on est 8, et okay. C'est des accompagnements à droite, à gauche, monter des dossiers. Parce qu'au départ, RESF, c'était en réaction aux lois Sarkozy par rapport aux enfants, à la scolarité des enfants. Oui, mais les enfants, derrière les enfants, il y a les parents. Et puis après, les parents, les dossiers des parents, oui, mais après, il y a des problèmes de logement. Et donc, ça...
Oui, oui. Effectivement, c'était juste le premier fil par lequel vous avez tiré le sujet, mais c'est un sujet complexe et il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à voir.
Tout à fait.
Juste, je voulais repréciser, la CIMAD, c'est le Comité Intermission d'Aide aux Déplacés et Évacués.
Oui.
Donc, c'est tout à fait l'objet. Au sein du collectif Solidarité Migrants, vous agissez tous dans le but de, j'imagine, recenser les personnes qui sont en situation difficile et puis agir pour les aider et sensibiliser autour la population plus largement à ces questions-là.
C'est ce qu'on fait. Donc, on passe... les gens commencent à nous connaître. Soit ils connaissent le collectif Solidarité Migrants d'Alès, ou soit ils connaissent une personne en particulier qui serait dans telle ou telle association. Cette personne va dire « Ah bah tiens, moi j'ai... je sais pas, j'ai une grande maison. On n'est que deux, moi et mon mari. Nos enfants sont partis, on aura une place pour quelqu'un, après ça nous revient, et puis voilà.
Okay.
Et donc, mais le problème, c'est que on a plus de demandes que d'offres.
Et oui. Alors justement, pour avoir plus d'offres, c'est, j'imagine, le but de ce petit guide-là sur lequel je veux revenir, le guide de l'hébergement solidaire qu'on peut trouver sur cevennessansfrontières.org. L'idée, c'est justement de permettre aux gens d'envisager un possible à ce niveau-là, en clarifiant bien qu'est-ce qu'on pourrait offrir. C'est ça, hein. Qu'est-ce que je pourrais avoir à offrir? Et aider la personne à pouvoir se positionner et sentir qu'elle va être soutenue dans sa démarche. Si elle a envie d'être solidaire, c'est possible. Elle va pas se retrouver toute seule dans son engrenage
jamais.
Où elle va se retrouver coincée. Elle aura offert des choses qu'elle, et puis après, elle arrivera plus à faire marche arrière. Là, vous, ce que vous proposez, c'est justement de l'accompagner dans son envie d'être solidaire.
On met toujours un groupe accompagnateur autour. Comme tu dis, que la famille se retrouve pas comme ça, qu'est-ce que je fais?
Toute seule avec...
comment j'emmène les enfants à l'école, s'ils doivent aller consulter? Parce que on n'a pas beaucoup d'hébergements sur Alès.
D'accord.
C'est à l'extérieur.
C'est surtout l'extérieur.
C'est bien à l'extérieur même du département.
Du coup, il y a un vrai problème au niveau des transports.
Et des transports, si la personne doit aller à l'hôpital. Donc, il y a toujours, on met toujours un groupe autour. Parce que ça ne doit pas peser sur la famille
donc,
qui accueille.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui proposent de l'hébergement et il y a des personnes qui proposent du transport.
Oui, qui font selon leurs moyens. Vous dites, moi, je ne peux pas héberger. Par contre, je peux, s'il y a une famille dans le coin, je peux leur rendre tel service. Et à chaque fois, tous ces petits trucs font que... Mmh. Voilà.
Puis c'est là l'intérêt, en fait. C'est là où on peut se rendre compte que, bon, tout le monde n'a pas un logement à mettre à disposition. Déjà, on est pas mal à se galérer pour se loger tout seul. Mais du coup, en fait, par contre, chacun peut proposer quelque chose. Ça peut être un cours de français, une fois ça a amené quelqu'un, etc. Il y a beaucoup de moyens de participer à cette aventure, en fait, quoi.
Mm-hmm. Oui, cours de français, c'est une bonne idée. Quoi d'autre, Maureen?
Enfin, je peux parler de...
Oui, de ce que tu vis, toi.
De ce que je vis, oui. Héberger quelqu'un, c'est... une découverte et une aventure un peu de tous les jours. Il y a énormément de moments qu'on a vécu, nous, depuis un an, qui sont... j'ai appris une culture... l'Irak, moi, pour moi, je suis jeune, j'ai toujours entendu comme un pays en guerre. Je découvre un pays que j'ai jamais eu l'occasion de découvrir, à part par Saddam Hussein et après la guerre, quoi.
Ouais.
Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment... pouvoir discuter sur des sujets, sur tout et n'importe quoi, c'est un apport en fait qui est quotidien.
Cette rencontre d'une autre culture là, ça t'amène culture, une ouverture.
Une ouverture, et puis on voit petit à petit en fait, même nous du côté de mes amis, ma famille, petit à petit, ma mère le considère aussi. Enfin, il fait partie de notre famille, en fait. Ah, maintenant, ouais. Tous mes amis, c'est ses amis. Enfin, tout le monde a quelque chose à apporter. Et pour lui, ou autant que ses deux autres amis qu'on se fréquente souvent, enfin, ils sont trois ou on est souvent ensemble. C'est vraiment devenu nos amis. Et c'est des choses, là, on a passé un été ensemble où on faisait vraiment, on allait à la rivière. Enfin, ça permet aussi d'être sur le long terme, de pouvoir vraiment créer des relations qui permettent aussi aux personnes de, enfin, que ce soit pour eux ou pour nous aussi, de tenir. Là, je sais que si moi, par exemple, parce qu'il y a des collectifs qui font ça comme Welcome, où c'est 2 mois dans chaque famille et puis ça tourne.
D'accord. Tu t'es inscrit sur un hébergement sur de la plus longue durée, voilà, et tu y trouves ton intérêt. Tu vois que ça construit quelque chose de beau dans la relation, c'est ça?
Oui, c'est ça, bien sûr, parce que moi, à la base, je suis éducatrice et du coup, j'ai jamais réussi à trouver une structure dans laquelle on puisse avoir un accompagnement vraiment sur le long terme et où on puisse aborder les différents aspects en fait d'un accompagnement. C'est très intéressant parce que surtout on l'a vu évoluer aussi. Enfin, quand il est arrivé à la maison, il était vraiment très très mal. Enfin, après un moment à la rue, un moment complètement de perdition. Là, on voit que petit à petit, il prend des repères. Il est content d'être ici et tous, je pense, ils prennent vraiment le... Ben ouais, je me bats et j'ai envie que d'avoir mes papiers. C'est, enfin, eux, c'est voilà leur la chose la plus importante. Ouais, quoi. Sans motif, les papiers, y a rien qui est possible. En fait, c'est vraiment leur seul objectif et de voir ça au quotidien, c'est très très intéressant. Après des moments un peu plus difficiles, bien sûr, il y en a. Ça reste des personnes qui sont fragiles et qui, vu qu'ils sont perdus, qui te plongent aussi dans cette perdition par moment ou qui attendent beaucoup de toi. Il y a des moments, on peut pas tout donner non plus. Et il y a des moments aussi. Ouais. Que... Mais c'est rien comparé aux choses incroyables
que vous vivez grâce à cette expérience.
Et que ça nous apporte. Et
ouais.
Chacun grandit vraiment d'une manière différente.
Quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que du coup, toi, tu t'engages sur un hébergement long terme, mais que pour des personnes qui seraient prêtes à accueillir peut-être un dépannage de quelques nuits ou quoi, c'est aussi intéressant et vous êtes preneur parce que y a des besoins aussi.
De quelques nuits, par exemple, demain, je vais voir avec une personne de Solidarité Migrants et puis quelqu'un de RECEP, on va voir une dame qui peut mettre à disposition un appartement skate-park pendant 2 mois.
D'accord.
Parce qu'on ne peut pas demander non plus aux gens, vous faites un jour ici, vous faites un jour
là. Et oui, évidemment, les sauts de puce.
Même ça, s'ils n'ont que des sacs, oui, voilà.
Il faut qu'ils aient
quand même le temps. Mais oui, je veux dire, à moi, on le prendrait. À moi, on le prendrait volontiers. Mais...
Ça éviterait à cette famille dont tu parlais de dormir à la rue en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme initiatives qui sont mises en place ici dans le coin? Alors, on pourrait parler de la cantine solidaire, de la rétive.
Cantine sans frontières.
Cantine sans frontières, oui.
Tu expliques?
Allez, on a lancé, notamment avec Philippe, toi aussi, Marine, tu as participé plusieurs fois. On a lancé les Cantines Sans Frontières il y a maintenant 2 ans, je crois, à peu près. L'idée, c'était justement de trouver un moyen de faire les choses ensemble, pas dans un esprit de charité, mais plutôt de solidarité, c'est-à-dire qu'on est au même plan, qu'on avait un projet, donc c'était de faire des repas. Au départ, c'était pas régulier, puis finalement, on s'est mis à faire ces cantines tous les mois. L'idée, c'était de faire quelque chose ensemble pour déjà, un, bah, trouver un moyen de s'en sortir un peu financièrement. C'est-à-dire que quand on n'a pas de papier, on n'a pas de revenus, on peut pas travailler, etc. Donc, un des premiers soucis après l'hébergement, c'est également le fric. Hein.
Donc, ces cantines sans frontières, en fait, elles permettent de dégager un peu de ressources pour des familles de migrants.
Voilà. Donc, le principe, c'est que le repas est à prix libre. Donc, les personnes qui viennent donnent ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent. Et à l'issue du repas, en fait, les recettes, la cagnotte est distribuée aux personnes qu'on fait à manger, quoi, en fait.
Sachant que les personnes qui font à manger, bah, c'est à chaque fois une famille ou deux personnes.
Généralement, on met deux familles ou alors deux jeunes.
Deux familles. D'accord.
C'est plus par des raisons de commodité, quoi.
Oui, parce qu'il faut quand même faire à manger pour, je sais pas, 50 ou.
Non, on aide.
Oui, je me doute, il y a du monde derrière.
Non, puis il faut que la somme d'argent corresponde aussi à quelque chose. Hein, si on s'investit pendant un petit moment, et puis qu'on donne 10 balles à la fin. Il faut quand même que ça serve. Déjà que c'est pas énorme ce qu'on peut se tirer comme argent. C'est pas extraordinaire, mais c'est bon. Il y a le côté argent, évidemment. Puis il y a le côté aussi rencontre. L'idée, c'était aussi d'avoir un moment fixe pour se voir, pour se rencontrer, pour faire aussi des choses régulières, pour se sortir aussi, pourquoi pas, de ses soucis, pour échanger aussi, pour partager. Alors évidemment, les gens qui viennent aux cantines sans frontières, restent dans un premier temps quand même des personnes qui sont un peu
intéressées par le sujet.
Ça permet aux familles, ça permet aux jeunes de revenir d'un mois sur l'autre, de se rencontrer. Il y a également des cours de français à la rétive, donc ça crée aussi un moment de rencontre, quoi. Et d'ouverture aussi aux personnes qui n'iraient pas forcément tout de suite s'investir, mais en voyant les choses, en rencontrant les gens, ça permet une première approche aussi qui est assez chouette, quoi.
Donc la rétive, c'est ce lieu associatif engagé qui est à Alès, je ne me souviens plus
c'est
de l'adresse.
Non, c'est pas une association.
C'est pas une association.
Ah non.
D'accord, c'est un collectif.
Non.
C'est quoi ?
C'est une bibliothèque au départ.
Oui, c'est une bibliothèque, d'accord.
C'est au 42 rue d'Auvergne.
Citoyenne, 42 rue d'Auvergne, ok.
Rue du Faubourg d'Auvergne. Ce que je voulais dire pour les cantines sans frontières, l'intérêt, hormis la somme d'argent que peuvent récupérer les deux familles, c'est que quand elles servent les plats, elles sont en contact direct avec les gens qui viennent manger, qui sont... Théoriquement, on pense que s'ils viennent, c'est qu'ils accrochent un peu. Et donc, elles peuvent leur parler. Puis, vous pouvez trouver, vous arrivez pour manger, vous trouvez la personne sympathique. Et les choses peuvent s'engager.
Oui, ça.
Ça peut déboucher, pas forcément sur un hébergement, mais ça peut déboucher sur...
une rencontre humaine, au moins.
Oui, au moins.
Ou plus.
Oui, et surtout, rencontrer du monde.
Puis c'est un moyen de s'organiser collectivement, en fait, hein, là où on est tous isolés face aux problèmes de sous, de papier, etc. Bah là, c'est une réponse qu'on apporte ensemble, qui tourne régulièrement. Donc on était vachement contents il y a quelques mois, parce que les cantines, elles se sont aussi, elles se font maintenant sur Nîmes également.
Ah, super.
Donc évidemment qu'on est super contents quand d'autres initiatives se font. Bon, d'ailleurs, c'est pas les seules, hein, y a bien d'autres choses qui se font, mais en tout cas, c'est aussi un moyen de se débrouiller ensemble, quoi.
Ouais, bien joué pour cette initiative. Alors on rappelle, les cantines sans frontières de la Rétive, c'est tous les derniers samedis du mois.
Oui, à partir de 12h30.
À partir de 12h30, et à chaque fois, voilà. C'est l'occasion de découvrir une cuisine du monde super bonne, ouais.
Toi le voyageur, toi l'étranger, assieds-toi les cons. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assieds-toi les cons. Toi qui as parcouru un si long chemin, assieds-toi les cons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens. Assalam alaikum. Assalam alaikum aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi, je t'en prie, Merbebik, fais-nous cet honneur. Cette tente, c'est ma maison. Ma maison, c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre, en pensant qu'on t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger,
et seul à moi les bons. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, et seul à moi les bons. Toi qui as parcouru un si long chemin, et seul à moi les bons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, et seul à moi les bons. C'est le désert, si courte notre vie, l'homme se croit maître de l'univers. Et si on se voit tout petit, grain de sable, emporté par le vent, nous ne sommes que poussière. Regarde le ciel et contemple, mon ami, la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir. Tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. Sédentaire ou nomade, on fait tout ce qu'au passé. Marcher ou courir sur place, chacun sa vérité. Toi le voyageur, toi l'étranger, la seule à moi les gros. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, et seul à moi les bons. Toi qui as parcouru un si long chemin, et seul à moi les cons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, et seul à moi les cons. Pays où les maisons montent jusqu'au ciel. Dis-moi mon frère, est-il vrai que ces maisons cachent votre soleil? Est-il vrai que vous travaillez dur jour et nuit pour payer des prisons dans lesquelles vous vous enfermez toute votre vie? Est-ce vrai que vous bâtissez des murs pour mieux vous protéger? Et pour protéger vos murs, sortez les barbelés. Les mirages n'existent pas que dans le désert apparemment. Si un chameau te dit qu'il sait parler, c'est qu'il te ment. Toi le voyageur, toi l'étranger, un seul à moi les bons. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, et seul à moi les bons. Toi qui as parcouru un si long chemin, et seul à moi les bons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, et seul à moi les bons.
Parle d'hospitalité dans les enfants du Nouveau Monde avec HK et les Saltimbanques et avec Maureen, Philippe et Fred qui se bougent pour accueillir dignement les migrants au pied des Cévennes.
Et Maureen, tu voulais ajouter quelque chose?
Juste, ouais. Je voulais ajouter, on avait fait un festival aussi le 13 octobre à Tornac. Dans l'idée, pareil, de solidarité sans frontières, où en gros le but c'était d'organiser une journée culturelle pour toute la famille, les enfants, les adultes. Donc on a eu différents ateliers, des ateliers photos, des ateliers contes, des ateliers jeux pour enfants, mais en mode très très grand. Et le soir, on avait proposé une cantine solidaire, donc c'était trois jeunes qui cuisinaient pour tous les participants du festival. Et le soir, il y avait eu un concert d'un groupe de Nîmes qui sont dans un foyer ASE, donc des mineurs isolés, qui sont venus jouer. C'est un groupe guinéen.
D'accord.
Je pourrais plus dire le nom parce que je l'ai oublié, je suis désolée. qui sont venus jouer et du coup les bénéfices du festival étaient reversés directement aux cuisiniers, au groupe et aux quelques jeunes qui avaient aidé à monter le festival.
Ouais, donc l'organisation d'événements comme celui-ci par exemple, c'est aussi des moyens de soutenir aussi toutes ces personnes-là.
C'est des moyens de soutenir et le but c'était vraiment de faire avec. Enfin, faire avec eux.
Ouais.
Il y en a beaucoup qui... Enfin, un groupe de 4-5 jeunes qui nous ont aidés tout au long de l'élaboration du festival, de A à Z, de comment on apprend. Ça n'avait pas été parfait du tout, mais c'était la première fois.
C'était
donc autant pour les uns pour les autres. Voilà, on était dans l'apprentissage. Mais il y a énormément de retours positifs, surtout des gens qui sont venus. Et ce qui était très bien, et c'est ce qu'on voulait, des gens qui n'étaient pas du tout
sensibilisé à la question.
Et nous, c'est vraiment ça l'objectif qu'on voulait, c'est pouvoir apporter d'autres personnes.
Bien sûr.
Et c'est vrai que surtout le festival, il y a pas mal de personnes qui venaient en me disant ben moi j'aimerais héberger ou j'aimerais avoir la possibilité, je peux donner quelque chose, où c'est que je peux aller pour donner ce que j'ai à donner. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, c'était vraiment très intéressant. Et on espère pouvoir en refaire une au printemps prochain.
Excellent. Où est-ce qu'on aura les infos, du coup, si on veut suivre ça?
Alors, on a une adresse mail, c'est lelangagedespapillons@gmail.com.
Ok.
Après, il y a eu l'événement sur Facebook. Donc, voilà, le Cabaret Barré, Solidarité Sans Frontières.
Le Cabaret Barré ou Solidarité Sans Frontières. Ok. Ouais, merci. Super. Ouais, belle initiative. Ouais.
Il en a découlé qu'une personne qui était venue les voir proposait un hébergement. Ils m'ont contacté. J'ai téléphoné à la dame. Comme c'était loin, l'hébergement, loin d'Alès, on l'a donné à ceux de Saint-Hippolyte, de Ganges. Et c'est eux qui se sont mis en relation et qui ont réussi à faire héberger une personne.
Ok, voilà. Grâce à ce festival.
Voilà.
Oui, comme quoi, hein, ça fonctionne. Alors justement, c'était là-dessus que j'avais envie de conclure. Si vous deviez donner des petits conseils ou des pistes pour des personnes qui ont envie justement peut-être de se mobiliser un peu plus sur cette question, qu'est-ce que vous conseilleriez? Vous conseillez à ces personnes de s'orienter vers qui, par exemple?
Ben moi, je leur dirais de contacter Solidarité Migrants à l'Est.
D'accord.
Et de venir à la prochaine réunion.
D'accord.
Et voilà, ils verront ce qu'on fait.
D'accord. Solidarité Migrants à l'Est sur Internet, on
trouve ? Oui, c'est oui. Solidarité Migrants pluriel à l'Est, tout attaché, @gmail.com.
Ok.
Bon, il n'y a pas un modèle pour filer un coup de main, en fait. Chacun y va de sa sensibilité, chacun a ses accroches, et puis c'est tant mieux comme ça. Après, oui, c'est possible pour se lancer, pour dégrossir. Le guide est un premier objet pour dégrossir, poser quelques questions. Évidemment, ça n'empêche pas le rapport humain.
Oui.
Donc évidemment, si les personnes qui sont intéressées venaient aux événements qui sont proposés, que ce soit les gros événements, ou alors par exemple les cantines, ou chaque fois qu'on organise quelque chose, on sera toujours là pour venir discuter. Quoi.
Ouais, c'est l'occasion. N'oubliez pas les cantines. Donc c'est le dernier samedi de chaque mois à la Rétive, 42 Faubourg, c'est ça, rue du Faubourg d'Auvergne, à Alès. Bah, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et puis merci pour votre engagement et pour le travail que vous faites. Ça donne l'image d'une France qui a de l'hospitalité. Et on en a bien besoin pour contrebalancer l'autre version.
C'est exactement pour ça.
Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.